vivo.
In vivo.
In vivo.
In vivo, la culture sans oripeaux.
Sans oripeaux.
La culture sans oripeaux.
Sans oripeaux.
Le 22 juin 2015, la cérémonie de signature de la convention du partenariat entre le nouvel Institut franco-chinois de Lyon et Ichuba s'est tenue à Ichuba, siège de l'ancien Institut franco-chinois. Cette signature de la convention de partenariat a été initiée dans le cadre de la visite officielle en Chine du maire de Lyon à la tête d'une délégation et de la création du nouvel Institut franco-chinois, centre pour la promotion des relations entre la Chine et Lyon. Alors comment s'est déroulée cette cérémonie? Comment est le nouvel Institut franco-chinois? Quels sont les témoignages des Chinois qui sont à la recherche des traces de leurs parents? C'est le sujet d'InVivo aujourd'hui. Alors aujourd'hui dans le studio, je suis avec Claudine. Salut Claudine.
Salut Florian.
Alors la fondation de l'Institut franco-chinois découle de la politique d'ouverture de la Chine aux études occidentales au début du 19e siècle. Les intellectuels chinois avaient compris qu'une modernisation du modèle éducatif traditionnel était nécessaire pour s'adapter à un monde en mutation.
L'envoi d'étudiants à l'étranger pour assimiler le savoir occidental était l'une des réponses à cette exigence.
Une génération de jeunes Chinois est venue étudier en France grâce au mouvement Travail-Études, fondé et organisé par Li Shuzhong.
Élevé dans un esprit de grande ouverture à l'égard de l'Occident, Li Shuzhong est parti en 1903 à Paris et entre à l'école pratique d'agriculture de Montargis. En 1909, Li Shuzhong a créé une usine de transformation de soja et a fait venir une trentaine d'ouvriers. Ainsi est lancé le mouvement Travail-Études.
En 1915, il fonde à Paris la Société du Travail Diligent et des Études Frugales, Tingong Dianxuehui. Puis en 1916, avec Tsai Yuanpei, il crée la Société Franco-Chinoise d'Éducation, Hua Fa Jiaoyuhui. Une grande partie de sa vie est consacrée aux œuvres éducatives franco-chinoises.
Oui, c'est vrai, dans le documentaire Le Jardin du Docteur Bussière, récemment diffusé sur CCTV9, un épisode était consacré à M. Li Shuzhong. C'est lui qui a amené le tofu en France, tout en travaillant à l'usine. Un reportage vidéo a même été tourné dans son usine.
Avec l'argent qu'il a gagné, il a aidé beaucoup d'étudiants chinois à partir en France faire des études. On comptait parmi eux les plus célèbres figures chinoises, telles que Zhou Enlai ou encore Deng Xiaoping.
Sa rencontre avec Paul Jupin, recteur de l'université de Lyon en septembre 1919, pose la première pierre à la fondation de ce lieu. À ce jour, il est l'unique établissement de formation hors de Chine à avoir transmis le savoir-faire occidental à 473 étudiants chinois de 1921 à 1946.
De 1921 à 1946, donc, l'Institut franco-chinois de Lyon accueille 473 étudiants, dont 52 femmes. À l'instar d'une école préparatoire, les Chinois peuvent s'imprégner de la société et de la culture française et parfaire leur maîtrise de la langue avant d'entrer à l'université.
Ils sont prioritairement orientés vers les établissements d'enseignement lyonnais, facultés, écoles centrales, écoles françaises de dannerie, écoles régionales d'architecture, etc. Un détachement n'est envisageable que si la spécialisation demandée n'existe pas à Lyon.
L'Institut Polytechnique de Grenoble, l'École Militaire Spéciale à Saint-Cyr, l'École Nationale des Eaux et Forêts à Nancy, l'Institut du Pin à Bordeaux accueillent ainsi des étudiants du Fort. L'un d'eux étudiera même à Varsovie.
Aussi bien pratique que théorique, les formations portent sur des domaines du savoir nécessaire à la nouvelle Chine. Sciences, médecine, chimie, pharmacie, astronomie, agriculture, électricité, industrie, commerce, textile, technologie, aviation, tannage, aussi bien lettres, beaux-arts, musique, etc.
Près d'un tiers des étudiants soutiennent une thèse. À son retour, cette élite nouvelle met au service de la société chinoise en construction le savoir acquis.
Le 22 juin 2015, la cérémonie de signature de la convention du partenariat entre le nouvel Institut franco-chinois de Lyon et Ichuba s'est tenue à Ichuba, Art 8 en français, siège de l'ancien Institut franco-chinois.
Cette signature de la convention de partenariat a été initiée dans le cadre de la visite officielle en Chine du maire de Lyon à la tête d'une délégation et de la création du nouvel institut franco-chinois, centre pour la promotion des relations entre la Chine et Lyon.
Avant la cérémonie de signature, Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon, a fait une déclaration. On l'écoute.
Voilà, c'est cela, l'institut franco-chinois. C'était en fait un ancien fort militaire et qu'à l'époque, mon prédécesseur, le maire de Lyon, avait donné pour développer les relations entre Lyon et la Chine. L'inauguration de notre institut et donc les expositions que nous organisons aujourd'hui, évidemment, nous serions aussi extrêmement heureux d'accueillir nos amis pékinois si jamais ils souhaitent s'associer au développement de cet institut franco-chinois. Nous en serions extrêmement fiers.
Madame Christine Cayol, fondatrice de Ishuba, organisation d'échanges culturels qui se trouve à l'ancien siège de l'Institut franco-chinois, a pris la parole. Elle nous parle de son rêve de toujours d'un rapprochement avec l'Institut franco-chinois. On l'écoute.
J'ai rêvé d'un rapprochement avec l'Institut franco-chinois de Lyon. Et comme la vie fait bien les choses, c'est naturellement, sans les forcer, que la rencontre avec Candice Duchélin s'est faite. Et qu'une excellente relation s'est nouée, de confiance, d'amitié. Et puis, bien sûr, la visite du président Xi Jinping chez vous, qui m'a rendue très jalouse, et qui m'a fait dire que nous avions aussi tout intérêt, pour la France comme pour la Chine, à voir se renouer ces liens historiques et à les rendre vivants, dynamiques, féconds et efficaces. Alors, ce partenariat, cette convention que nous allons signer, présage de beaux projets, des échanges entre des artistes, des expositions, des échanges entre intellectuels. Et je me réjouis énormément d'accueillir certaines personnalités qui vraiment incarnent une certaine qualité de la relation franco-chinoise. Merci à Gérard Collomb d'être ici avec nous et de participer à cette cérémonie et de non seulement d'attester du lien entre ces deux institutions, mais aussi de co-signer cette convention.
Ensuite, M. Gérard Collomb, M. Alain Labatte, président de la Fédération des associations franco-chinoises, Mme Cai Leiluo, petite-fille de M. Cai Yuanpei, fondateur de l'Institut franco-chinois de Lyon, M. Xu Changdong, descendant de M. Wu Zhihui, directeur de l'Institut franco-chinois, Mme Christine Cayol, fondatrice de Ishuba, ainsi que M. Dong Qiang, professeur à l'Institut de Pékin, un des plus grands traducteurs, créateurs, fondateurs du prix Fulei, ont apposé leur signature en bas de la convention.
Après la cérémonie de signature, certaines des personnalités présentes ont voulu témoigner du sens de cette signature. On écoute Mme Cai Leiluo, petite fille de M. Cai Yuanpei.
Je suis née assez tard, je n'ai jamais connu mon grand-père. Il est décédé lorsque mon père n'avait que 10 ans. En 1920, mon grand-père, M. Li Shizeng et Zhu Zhihui ont créé en commun l'Institut franco-chinois. Ce dernier était le directeur de l'Institut franco-chinois. À l'époque, il était le directeur de l'université de Pékin. C'est en 1913 que mon grand-père est venu pour la première fois en France avec la famille. Il a initié le mouvement travail-études. En 1916, il a créé avec M. Li Shizeng la Société franco-chinoise d'éducation. En 1912, il a été nommé ministre de l'éducation à l'époque de la République de Chine. Il considérait les valeurs françaises, liberté, égalité et fraternité, comme le noyau de l'éducation. Ça montre à quel point il appréciait le système français. En 1927, il a introduit le système universitaire français en Chine. Je suis très émue de savoir qu'un grand nombre de personnes comme mon grand-père se sont dévouées à l'époque-là à la cause des échanges culturels entre la Chine et la France. Ils ont apporté leur contribution à cette cause.
Pour sa part, M. Dong Qiang, professeur de l'Université de Pékin, a fait une déclaration avec passion et conviction. On l'écoute.
Je suis très heureux d'être ici et en fait parmi les amis, parce que monsieur le maire, je suis très heureux de vous rencontrer ici dans ce lieu qui a un lien avec, avec Lyon depuis très longtemps. Et monsieur Alain Labatte qui a eu la gentillesse de m'inviter à faire des conférences à Lyon il y a déjà 8 ans presque. Hein. Donc je suis très heureux d'être ici parce que je suis maintenant, donc je dirige un département qui en fait a reçu en 1950 tous les professeurs et étudiants qui ont étudié ici. C'est-à-dire au moment où l'Institut franco-chinois à Pékin disparaît, eh bien tous les gens sont allés dans le département que je dirige aujourd'hui. Voilà, donc je suis un petit peu héritier de tout cela. J'aurais dû être signataire aussi avec vous, mais quelque chose d'aussi important, j'aurais préféré aussi demander à notre université, et d'ailleurs qui a un lien très fort avec Lyon, puisque on a des échanges avec l'École normale supérieure de Lyon. D'ailleurs, je viens d'envoyer quelqu'un à Lyon et je vais recevoir quelqu'un, une étudiante de Lyon. Et on a d'autres, évidemment, beaucoup d'autres échanges, etc. Donc je suis très heureux, je suis sûr que je pourrais signer quelque chose avec vous dans le futur. Comme Christina a dit, j'insiste beaucoup sur la traduction pour former les gens qui sont forts pour le biculturel. Et je viens de m'apercevoir que la dame qui est en train de vous traduire est une élève à moi, une ancienne élève à moi, qui a d'ailleurs travaillé à l'ambassade de France, qui a traduit des choses pour l'ambassadeur. Vous voyez comme on essaye, et c'est ça l'importance de l'éducation, l'importance d'un institut. C'est-à-dire, s'il n'y a pas des instituts franco-chinois ou sino-français, on n'aura personne pour faire passer les messages, pour aider les échanges. Et c'est pour ça que j'insiste jamais assez là-dessus. On est dans une nouvelle période, on est dans une période de mondialisation, mais la mondialisation sans les interprètes et les traducteurs, eh bien, ça va vers l'impasse. Nous allons avoir de plus en plus de moyens technologiques, mais il faut former les gens pour suivre ces moyens technologiques. Sinon, on va devenir de plus en plus étroit. Il faut aller vers l'autre. Et les traducteurs sont des gens qui aident, qui vous poussent vers l'autre, qui vous aident ces communications à établir avec l'autre. Donc cet institut qui est un pont pour la France et la Chine, je souhaite que ça va continuer à la fois pour la culture, pour l'éducation et pour l'art. Donc tous mes voeux. Merci beaucoup.
Monsieur Alain Labatte, président de la Fédération des associations franco-chinoises, a pris la parole. Il nous a notamment parlé du nouvel institut franco-chinois. On l'écoute.
Merci, bonsoir à tous. C'est un peu difficile de parler après le chinois qui connaît peut-être le mieux la France, sa langue et sa culture. Tout à l'heure, monsieur le sénateur Maire vous a brièvement parlé de cet institut franco-chinois de Lyon, qui a reçu donc près de 500 jeunes chinois entre les deux guerres mondiales. Cet institut est l'épisode le plus brillant, bien sûr, de l'histoire de nos relations, mais l'histoire des relations entre Lyon et la Chine est en réalité bien plus ancienne et bien plus vaste. Lyon est une ville qui a toujours comporté des gens, des hommes et des femmes, qui très tôt, depuis le XVIe siècle, ont porté leur regard vers les horizons les moins connus du monde, et en particulier vers l'Extrême-Orient. Dès le XVIe siècle, nous avons eu à Lyon un collège de jésuites qui est devenu, en quelques années, donc le centre des entreprises missionnaires à destination de la Chine et par conséquent de la connaissance de la Chine dans notre pays et dans les pays voisins. Nous avons eu aussi également beaucoup d'imprimeurs établis rue Mercière, que connaissent bien les Lyonnais, qui ont publié en latin et ensuite en français des ouvrages qui ont été des ouvrages fondateurs de la connaissance de la Chine en Europe. Et puis surtout, nous avons eu à Lyon, et nous avons toujours, des entrepreneurs. Ces entrepreneurs donc, se sont très tôt intéressés à cette partie du monde. Ce furent des gens qui, dès la fin du XIXe siècle, donc, ont établi une condition des soies dans la ville de Canton, aujourd'hui notre ville jumelle. Donc des entrepreneurs donc, du textile. Il y en a eu d'autres comme Émile Guimet, qui a mis sa fortune au service de la connaissance des civilisations de l'Extrême-Orient et qui a fondé aujourd'hui, qui est le fondateur de notre plus grand musée d'art asiatique en France. Et puis, il y en a eu d'autres plus anonymes, mais qui ont participé dans les dernières années du XIXe siècle aux deux entreprises d'exploration commerciale de l'Empire chinois organisées par la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Cette Chambre de commerce et d'industrie de Lyon a été à l'initiative de la création de la première chaire d'enseignement de la langue chinoise qui a ouvert à l'Université de Lyon en 1913. On pourrait bien sûr, au fil des siècles, continuer cette énumération à travers des grandes figures. Paul Bernier, Alain Mérieux aujourd'hui, Ceci pour vous dire que, à travers ce projet de nouvel institut chinois, qui s'honore du partenariat que nous avons signé aujourd'hui avec un lieu aussi prestigieux et aussi émouvant pour nous que Yishuba, c'est une nouvelle dimension dans ces relations globales avec la Chine que souhaite donner la métropole. Et ce nouvel institut franco-chinois donc se veut un lieu aussi de création, d'échange, de culture et de dialogue, mais aussi un lieu fédérant l'ensemble des acteurs lyonnais travaillant avec la Chine pour donner à notre métropole donc la place qu'elle mérite dans ce pays qui est devenu la première économie mondiale aujourd'hui.
Monsieur Gérard Collomb a l'honneur de clore cette cérémonie. On l'écoute.
Bien, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, je vais avoir l'honneur de terminer cette cérémonie. Et en fait, ce qui était essentiel, vous l'avez vu après la signature, c'était de pouvoir porter un campé à l'amitié franco-chinoise, à l'amitié entre nos deux instituts. Il se trouve que nous avons avec nous Monsieur Dominique Piron, qui est celui qui a eu l'insigne honneur de faire trinquer Monsieur Xi Jinping avec le vin que nous allons avoir aujourd'hui. Donc je pense que ce sera s'inscrire dans une belle tradition. Je suis heureux de porter ce campé à nos deux instituts et à l'amitié entre Lyon et la Chine.
Très émue, Madame Tsai Lei Luo nous a révélé ses sentiments à l'égard de l'Institut franco-chinois. On l'écoute.
Je pense qu'il y a 100 ans, l'Institut franco-chinois servait de pont pour les échanges culturels entre la France et la Chine. À l'époque, M. Cai Yuanpei a créé cet institut dans le but d'encourager des étudiants chinois à apprendre plein de connaissances scientifiques et culturelles occidentales à travers le mouvement Travail-Études. Il existe également des instituts franco-chinois à Lyon, à Beijing, à Guangdong. Aujourd'hui, la signature à l'ancien siège de l'Institut franco-chinois de Beijing revêt une signification très importante, permettant de meilleurs échanges dans le domaine culturel, éducatif, scientifique, etc.
Parmi les invités, on a rencontré Madame Zeng, descendante d'étudiants chinois ayant fait leurs études en France. Elle a récemment fait un voyage en France pour retrouver les traces de la génération précédente. On l'écoute.
Trois membres de ma famille ont fait leurs études en France. Mon père est titulaire d'un doctorat de l'Institut franco-chinois de Lyon. Il y a étudié la biologie. Après son retour en Chine, il est devenu professeur à l'université de Qingdao, puis directeur de l'Institut économique relevant de l'université du Sichuan. Mes deux oncles maternels et paternels sont partis étudier en France dans le cadre du mouvement Travail-Études. Mon oncle maternel était à l'Institut franco-chinois en 1928. Sa photo est justement affichée au musée de l'Institut franco-chinois. Il a regagné le pays en 1934. L'année dernière, on est allé en France à la recherche des traces de mon père et de mes oncles. On est resté là pendant 45 jours, dont 15 jours à Lyon, puis on s'est rendu à Paris et à Montpellier. On a trouvé pas mal de documents incroyables. À Lyon, j'ai retrouvé la thèse de doctorat de mon père à la bibliothèque François Mitterrand. On a aussi trouvé d'autres documents. On a surtout trouvé des documents concernant mon oncle maternel. Lui était l'un des cinq membres de la fondation du Parti communiste en 1920, initié par Chen Duxiu. Il a participé à la discussion sur les statuts du PCC. Le lendemain, il est allé en France. Cet oncle est un vieux vétéran. Malheureusement, on est resté très peu de temps, parfois juste une demi-journée dans certains endroits. Comme c'était notre premier voyage, on s'est un peu perdu. Ça n'a pas rendu les recherches faciles. Après notre retour, l'association franco-chinoise nous a aidés à travers mon ami Cao Faming. On a beaucoup échangé et nous a même envoyé des documents.
Monsieur Alain Lapatte a accueilli Madame Zeng en France. Il nous a évoqué la visite de cette dernière et l'objectif de la visite de la délégation lyonnaise. On l'écoute.
Alors, monsieur le maire de Lyon se rend régulièrement en Chine, hein, à peu près tous les deux ans, puisque notre ville a, depuis très longtemps, depuis presque le XVIe siècle, une relation particulière avec la Chine. Oui. L'an dernier, nous avons reçu le président Xi Jinping à l'occasion de la visite d'État qu'il a effectuée dans notre pays pour célébrer le 50e anniversaire de ses relations franco-chinoises. Nous avons été très fiers que sa visite ait commencé par la ville de Lyon, qui est la seconde ville économique de France, mais qui n'est pas la capitale. Et à la suite de cette visite, monsieur le sénateur maire de Lyon a souhaité que l'on capitalise sur cette histoire particulière de relations avec la Chine pour créer et faire renaître ce nouvel institut franco-chinois que l'on va appeler Chine Chongfata, qui est destiné donc à réunir l'ensemble des Lyonnais qui travaillent avec la Chine dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans le domaine associatif, dans le domaine du tourisme également, pour donner une ampleur nouvelle de nos relations avec la Chine, sachant que Lyon n'est plus seulement une ville, c'est devenu ce qu'on appelle une métropole, c'est-à-dire qu'elle a acquis une dimension démographique et économique privilégiée qui nécessite qu'elle ait un projet nouveau en direction de la Chine.
C'est très émouvant. J'ai écouté la dame, elle a fait la visite pour trouver la trace de ses grands-parents,
bien
ses
sûr.
Oncles, donc vous leur avez beaucoup aidé.
Bien sûr, ben, c'est notre devoir. Hein.
Oui.
On est très touchés de recevoir régulièrement des amis chinois, souvent assez âgés, qui viennent à Lyon à la recherche de la vie de leurs grands-parents, de leurs oncles, de leurs tantes, qui ont participé à ce mouvement donc, qui a vu venir dans notre ville presque 500 étudiants entre les deux guerres mondiales.
Le nouvel institut, c'est similaire à l'ancien.
Alors, ce nouvel institut ne sera pas une université. Ce nouvel institut sera un centre destiné à développer les relations de notre métropole avec la Chine dans tous les domaines. Il y a un espace d'exposition qui raconte l'histoire de l'ancienne université franco-chinoise. Il y a aussi un espace d'exposition pour des manifestations, donc, par exemple, que nous organiserons avec Yishupa, par exemple. Et bientôt, il y aura donc, un premier étage destiné à accueillir donc, le lieu, si vous voulez, où vont pouvoir se réunir, se rassembler, travailler tous les gens qui, à Lyon, souhaitent développer leur lien avec la Chine.
D'accord, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Venu avec la délégation lyonnaise, M. Didier Codard, président du DCB International, a également apporté sa contribution à la création du nouvel institut franco-chinois. On l'écoute.
Alors, ma contribution, donc moi je suis président d'une société d'immobilier et d'investissement. J'investis dans des nouvelles sociétés, des start-up. Et j'ai bien évidemment des relations très proches avec la ville de Lyon. Et la ville de Lyon m'a demandé de m'investir personnellement dans le projet de la rénovation de l'Institut franco-chinois. Et la DERLI, l'association de développement de la région de Lyon, m'a demandé, on va dire 2 mois avant l'arrivée du président Xi Jinping, de rénover l'Institut complètement. Donc ça a été pour moi quelque chose de très compliqué parce qu'il a fallu que je travaille presque jour et nuit avec des équipes. Et d'ailleurs, j'ai été très heureux parce que le président de Bank of China France est venu nous voir une fois que c'était terminé et il m'a dit « Je vous félicite, vous avez travaillé comme des Chinois ». Et donc, c'était pour moi une grande fierté de pouvoir travailler comme un Chinois. Voilà, donc on a réussi, quelques jours avant l'arrivée du président chinois, à avoir un institut complètement rénové, complètement fait. Et une grande partie de ces investissements, nous les avons gardés pour nous. Nous les avons payés, nous, directement avec notre société DCB International. Voilà.
Merci.
Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci d'écouter RCI. C'était un reportage sur la signature de la convention du partenariat entre le nouvel Institut franco-chinois de Lyon et Yishuba, qui s'est tenu à Yishuba, siège de l'ancien Institut franco-chinois. Et n'oubliez pas d'écouter nos podcasts sur notre site internet www.french.cri.cn.
Merci, à bientôt.
À bientôt.